Chapitre 30. Réveil difficile, les mains agrippées au drap, les muscles contractés. Pendant une seconde, je me sentis folle d'angoisse. Cours, bats-toi, crie. Mais mes pensées étaient engluées, imprégnées de rêves. Je n'arrivais pas à remplir les vides. Je me forçais à m'asseoir, aspirais d'inégales goulets d'air. Le réveil indiquait 2h32. Cauchemar, pensais-je. Mauvaise nuit. Je sortis du lit, vêtu d'un boxer en coton pour homme et d'un débardeur noir délavé. Bella releva la tête, considéra le problème. Elle était désormais habituée à mon agitation. Elle reposa la tête, autant qu'une de nous deux dorme un peu. J'allai seule à pas de loup jusqu'à la cuisine, où j'ouvris le robinet d'un coup sec et me servis un verre d'eau de la ville. Si ça ne me réveillait pas, rien ne le ferait. Je me tenais là, à regarder le faible ray de la lumière du couloir sous ma porte verrouillée et chaînée, quand la sonnette d'en bas bourdonna bruyamment. Je sursautais et renversais de l'eau sur mon t-shirt pendant que Bella sortait de la chambre d'un bond, traversait la cuisine et se mettait à aboyer comme une folle devant la porte. Je ne pensais plus, j'agissais. Je lançais le gobelet en plastique dans l'évier, retournais en courant dans la chambre, retournais mon oreiller, attrapais le taser planqué en dessous. Vite, vite, vite. Retour dans la cuisine. Bella qui aboie, mon cœur qui bat la chamade. Est-ce que j'entendais la porte grincer au rez-de-chaussée? Des pas dans l'escalier? J'attrapais finalement Bella par le collier et la forçais à se coucher. Chut. Chut, chut, murmurai-je, mais ma propre anxiété entretenait son agitation. Elle émit un grondement sourd pendant que je regardais fixement le faisceau de lumière sous la porte de mon appartement en attendant qu'apparaisse l'ombre de pieds noirs, que se profile l'ennemi. Et rien. Les minutes s'écoulèrent. Ma respiration s'apaisa. Ma posture passa d'une agressivité défensive à la perplexité pure et simple. Un peu plus tard, j'eus l'idée de m'approcher du bow window pour regarder en bas. Pas de voiture inconnue garée dans la rue. Pas de rôdeur dans l'ombre. Je me laissai retomber sur la banquette de la fenêtre, le taser toujours collé à la poitrine. Ma réaction était exagérée, mais je ne pouvais pas renoncer à veiller. Bella avait plus de bon sens. Avec un soupir, elle abandonna son poste pour le tapis de chien du salon. En quelques secondes, elle fut roulée en boule et de nouveau endormie, truffe de toutou sur patoune de toutou. Je restai debout, sentinelle hyper stressée qui tentait de se raisonner. Les sonnettes retentissent parfois au milieu de la nuit, essayais-je de me rappeler. C'était déjà arrivé. Ça arriverait encore. Des passants ivres, ou même les invités d'un autre locataire qui se trompe de numéro d'appartement. Les autres habitants de l'immeuble étaient prudents. Aucun de nous n'ouvrait la porte comme ça aux inconnus qui sonnaient. Ce qui ne faisait sans doute qu'augmenter la probabilité que l'intrus continue à appuyer sur des boutons jusqu'à obtenir un résultat. En d'autres termes, il y avait 1,5 million d'explications au fait que la sonnette retentisse au milieu de la nuit, et aucune d'elles ne marchait dans mon cas. Je quittai la banquette, retournai à ma porte, posai l'oreille contre la peinture et guettai des bruits qui montraient de l'escalier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bande-son dans la vraie vie. Au cinéma, on sait quand un malheur va arriver, parce que les grosses basses vous préviennent. Il n'y a pas une personne au monde dont le cœur ne s'affole en entendant la musique des Dents de la Mer, et franchement, c'est réconfortant. On aime avoir des repères. Ça donne un certain ordre au monde. Un malheur peut arriver, mais seulement quand on commence à entendre en fond sonore « da 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 ». La réalité n'est pas comme ça. Une jeune fille rentre chez elle par un bel après-midi, gravit les escaliers familiers, écoute le ronronnement familier d'une climatisation vétuste, entre dans l'appartement et trouve sa mère morte sur le canapé. Un homme sort se promener en ville, il écoute le passage des voitures, les coups de klaxon, l'agitation des autres piétons qui papotent sur leur portable. Il descend du trottoir une seconde trop tôt et boum, son visage n'est plus qu'une bouillie informe, fracassé contre un lampadaire. Une petite fille sort jouer dans le jardin de ses grands-parents. Pépiment d'oiseaux, craquement de feuilles d'automne, bruissement du vent. Et elle se retrouve à hurler à l'arrière d'une camionnette blanche. La vie bascule en un instant, et aucune bande-son pour nous guider. Si bien que les gens comme moi sursautent au moindre bruit, parce qu'ils ne savent pas comment faire la différence. Je voulais être comme le reste de mes concitoyens, qui, lorsqu'ils sont réveillés au milieu de la nuit par leur sonnette, peuvent dire allègrement « Va te faire foutre !» avant de se retourner pour se rendormir. Voilà. Ça, c'est une vie. Je regagnais péniblement ma chambre éclairée par 3 lampes de chevet différentes. Je m'allongeais sur mon petit lit et fis courir mes doigts sur la largeur du drap. Et je me laissais aller à imaginer un instant comment ça pourrait être si Bobby Dodge n'était pas enquêteur et moi victime, suspecte, témoin. Si nous étions 2 personnes comme les autres qui se seraient rencontrées lors d'une fête paroissiale, J'aurais apporté une salade aux trois haricots, lui aurait apporté ce grand classique des célibataires, un paquet de chips de maïs. On aurait pu parler kickboxing, chien, clôture de piquet blanc. Plus tard, je l'aurais laissé me raccompagner, il aurait glissé ses bras autour de ma taille. Et au lieu de me raidir avec défiance, je me serais laissé sombrer en lui. Le contact dur d'un corps d'homme, son torse qui aplatirait mes seins. Le chatouillement râpeux de ses joues un instant avant qu'il ne m'embrasse. On pourrait dîner ensemble, aller au cinéma, passer des week-ends entiers à faire l'amour. Sur le canapé, dans la chambre, sur le plan de travail de la cuisine. Il était sportif, athlétique, j'aurais parié qu'il faisait très bien l'amour. On pourrait même devenir un couple comme les autres. Et je serais normale et je ne chercherais pas son nom ou quelqu'un qui lui ressemblerait dans le fichier des délinquants sexuels. Sauf que je n'étais pas normale. J'avais trop d'années de peur imprimées dans le cerveau, et lui le poids de la mort d'un homme autour du cou. Son boulot l'avait déjà conduit à me mentir et à me manipuler. Mon passé m'avait conduite à lui mentir et à le manipuler. Nous pensions tous les deux avoir eu raison. Je me demandais pour la première fois si Bobby dormait bien la nuit. Et si jamais nous le faisions ensemble, lequel des deux serait le premier à se réveiller en hurlant? Cette idée aurait dû me refroidir. Au contraire, elle me fit sourire. Nous étions tous les deux tordus, lui et moi. Peut-être que si on nous laissait le temps, on pourrait découvrir si nos distorsions nous rendaient complémentaires. Je soupirais, me retournais, écoutais Bella revenir en trottinant dans la chambre, se poster près de mon lit. Je lui caressais les oreilles, lui dis que je l'aimais. Cela nous réconforta toutes les deux. À ma grande surprise, je me détendis. Mes yeux se fermèrent peu à peu, il se peut que j'aie commencé à rêver. Et la sonnette retentit à nouveau. Forte, stridente, brutale, encore et encore et encore, une violente agression sonore qui ricochait dans mon minuscule appartement. Je sautai de mon lit, courus à la fenêtre. Les réverbères bombardaient la noirceur lisse sans rien donner à voir. Je passai dans la cuisine, dansant sur la pointe des pieds, les nerfs en pelote, le taser prêt, les yeux rivés à la fente sous la porte. Je repérais une ombre menaçante. Je me figeai, retins mon souffle, épiai. Lentement, je me mis à quatre pattes. Je regardais sous la porte, cherchant désespérément à voir dans ce cadre une minuscule portion de couloir. Pas des pieds, pas un homme. Quelque chose d'autre. Quelque chose de petit, rectangulaire et soigneusement emballé dans du papier de couleur vive. La BD du dimanche. Je rebasculai sur mes pieds, et je m'attaquai à ma porte, ouvrant frénétiquement la demi-douzaine de serrures pendant que mon cœur battait de peur et que mes mains tremblaient de rage. Bella aboyait, la chaîne se décrocha. Ensemble, nous sortîmes en trombe sur le palier du cinquième, où moitié nu et brandissant mon taser, je hurlais à plein poumon. « Où tu es, fils de pute ? Montre-toi et bats-toi comme un homme ! Tu veux apprendre à me connaître ?» J'enjambai d'un bond le paquet emballé. Bella descendit les escaliers avec fracas. Nous déboulâmes dans le hall du rez-de-chaussée, carburant à l'adrénaline pure et prête à affronter une armée entière. Mais l'immeuble était désert. Rien dans l'escalier, personne dans le hall. Je suivis les bruits de pas jusque dans le vestibule, où je trouvai la porte de la rue ouverte et battant au vent. Je la poussai largement, sentis l'agression froide de la pluie qui me cinglait le visage. La nuit était tempétueuse. Ce n'était rien par rapport à ce que je ressentais à l'intérieur. Aucun signe de vie dans la rue. Je refermai soigneusement la porte de dehors, appelai Bella pour qu'elle remonte. Devant mon appartement, il m'attendait toujours. Un paquet plat rectangulaire. Snoopy. Perché sur sa niche rouge, souriait sur le dessus. Et soudain, c'en fut trop. 25 ans n'avaient pas suffi. Les leçons de mon père n'avaient pas suffi. La menace était de retour, mais je ne savais toujours pas qui combattre, comment attaquer, vers quoi diriger ma colère. Ce qui ne me laissait que la peur. Peur de chaque ombre dans mon appartement plongé dans le noir. Peur de chaque bruit dans ce vieil immeuble qui craquait. Peur de chaque passant dans la rue. Je laissai le paquet sur le palier. J'attrapai Bella par le collier et l'entraînai dans la salle de bain où je fermai la porte à clé et entrai dans la baignoire, en priant pour que la nuit s'achève.
« Vous êtes sûr que vous n'avez rien vu ?» demandait Bobby. « Une voiture, quelqu'un, le dos d'un manteau qui disparaît au bout de la rue ?»
Je ne répondis pas, me contentai de le regarder tourner en rond dans les 2 mètres carrés de ma cuisine.
« Ou une voix. Est-ce qu'il a parlé ? Est-ce qu'il a fait un bruit quelconque en arrivant, en montant ou en descendant les escaliers ?»
Je ne dis toujours rien. Bobby posait les mêmes questions depuis des heures maintenant. Le peu que j'avais à dire était déjà consigné. À présent, il s'agissait surtout pour lui de laisser sortir la vapeur et de composer avec des événements que je refusais toujours d'accepter. Le fait, par exemple, qu'au bout de 25 ans, l'individu blanc non identifié m'avait retrouvé. Le téléphone avait sonné peu après 4 heures du matin. Encore un bruit sec et strident qui m'avait glacé le sang. Mais la voix sur mon répondeur n'était pas celle d'un fou sarcastique. Seulement Bobby, qui me demandait instamment de décrocher. L'entendre m'avait rasséréné, m'avait redonné un but. Pour lui, il fallait que je sorte de la baignoire, que j'ouvre la porte de la salle de bain, que je brave l'obscurité de mon appartement. Pour lui, je pouvais prendre le combiné, maintenir le téléphone sans fil contre mon oreille, tout en allumant farouchement les lampes et en lui rapportant les événements de la nuit. Bobby n'avait pas eu besoin que je lui en dise beaucoup. 2 minutes plus tard, il avait raccroché et il était en route pour mon appartement. Il était arrivé avec tout un groupe d'hommes en costume froissé. 3 enquêteurs, Sinkus, McGahagin, Rock. Dans leur sillage, un escadron d'agents en tenue, rapidement mis au travail pour passer mon immeuble au peigne fin. Les techniciens de scène de crime arrivèrent ensuite, contrôlant les portes d'entrée, le hall, la cage d'escalier. Mes voisins n'avaient pas apprécié d'être réveillés en pleine nuit, mais la curiosité les avait poussés à sortir pour profiter du spectacle gratuit. Bella avait pété un plomb en voyant tous ces étrangers envahir son appartement. J'avais fini par l'enfermer dans la voiture de Bobby. Seul moyen pour que les techniciens puissent faire leur travail. Personne ne se faisait trop d'illusions. Les pluies de la veille au soir s'étaient muées en une brume matinale grise. La pluie efface les indices. Même moi, je le savais. Les techniciens avaient commencé dans le vestibule et remontaient maintenant progressivement. De la poudre noire pour empreintes digitales volait partout. Ils se rapprochaient de l'épicentre de la catastrophe, une petite boîte rectangulaire de 10 cm sur 15, soigneusement emballée dans les bandes dessinées qui attendaient devant ma porte. Pas de carte, pas de ruban. Le paquet n'avait pas besoin d'introduction, je savais déjà de qui il venait. La porte de mon appartement s'ouvrit à nouveau. Cette fois-ci, Didi entra. Immédiatement, l'activité cessa, tous les yeux se tournèrent vers le commandant. Elle était pâle, mais se déplaçait avec sa sévère efficacité habituelle. Pas mal pour une femme qui avait un épais pansement de gaz sur la moitié inférieure de la joue. « Tu ne devrais pas, » commença Bobby. « Oh, pitié !» répondit Didi en levant les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu comptes faire? M'attacher au lit d'hôpital avec des menottes? D'après Bobby, Didi avait failli se faire déchiqueter par un chien d'attaque à peine quelques heures plus tôt. Elle avait frôlé la mort, mais on pouvait compter sur elle pour ne pas se laisser freiner par ce genre de détails. Quand le paquet est-il arrivé? Demanda-t-elle sèchement, manifestant qu'elle était de retour dans la partie.
Vers 3h20, répondit Bobby.
Le regard de Didi se dirigea vers moi. C'est comme dans votre souvenir?
Oui,
répondis-je posément. Au moins vu de l'extérieur. La boîte me rappelle les cadeaux reçus quand j'étais petite. Ils les emballaient toujours dans des bandes dessinées.
Qu'avez-vous vu?
Rien.
J'ai regardé dans l'immeuble, la rue. Le temps que j'ouvre ma porte, il avait disparu.
Didi soupira.
C'est aussi bien comme ça. On a eu assez de dégâts pour une nuit.
Le capitaine Sinkus s'approcha.
On est prêt, annonça-t-il.
Il avait une tache sur l'épaule gauche, on aurait dit du crachouillis. Bobby hésita, me regarda.
« Vous pouvez sortir, » me proposa-t-il. « Attendre en bas pendant qu'on l'ouvre. »
Je lui lançai un regard qui en disait assez long. Il haussa les épaules, de toute évidence il prévoyait ma réaction. Il fit signe au technicien de scène de crime qui apporta la boîte dans la cuisine et la posa sur le plan de travail. Nous nous groupâmes tous les quatre autour d'elle, coude à coude, et regardâmes le scientifique travailler. À l'aide de ce qui ressemblait à un scalpel, il décolla soigneusement le scotch de chaque rabat, puis ôta le papier de la boîte avec la précision et le détachement d'un artiste. Au bout de 4 minutes, les bandes dessinées furent enlevées et dépliées, révélant toutes les images des Peanuts,
qui n'aime pas Snoopy et Charlie Brown,
et des fragments de quelques autres BD de première page. À l'intérieur de l'emballage, une simple boîte à cadeaux d'un blanc brillant. Le couvercle n'était pas scotché, le technicien le souleva. Papier de soie blanc. Le technicien déplia le côté droit, puis le gauche, et dévoila le trésor. Je vis d'abord des couleurs. Des rayures roses, sombres et claires. Puis le technicien sortit le tissu de la boîte. Le laissa se déployer comme une pluie de roses, et j'en eus le souffle coupé. Un doudou. Un bout de tissu à carreaux rose foncé avec une bordure de satin rose pâle. Je chancelai. Bobby vit mon expression et m'attrapa par le bras.
« Qu'est-ce que c'est ?»
J'essayais d'ouvrir la bouche. Essayais de parler, mais le choc était trop violent. Ce n'était pas le mien, impossible. Mais cela y ressemblait. Et j'étais horrifiée. Terrifiée, mais en même temps j'avais une folle envie de toucher le doudou de bébé pour voir si la sensation serait la même que dans mon souvenir.
la douceur du tissu et la fraîcheur du satin qui glissait entre mes doigts, rassurante contre mes joues.
« C'est un doudou, » annonça Didi. « Comme pour un bébé. Une étiquette pour le prix, un ticket de caisse, des marques sur la boîte ?»
Elle parlait au scientifique. Il avait fini d'étaler le doudou, il le tournait et le retournait avec ses doigts gantés. Puis il revint à la boîte, ôta le papier de soie, inspecta l'intérieur et l'extérieur. Il leva la tête et fit non. Je retrouvai enfin ma voix.
« Il sait. »«
Il sait ?» reprit Bobby.
« Le doudou. Quand je vivais à Arlington, j'avais un doudou. Un bout de tissu à carreaux rose foncé, avec une bordure de satin rose pâle. Exactement comme ça.
« C'est votre doudou ?» s'exclama Didi.
« Non, pas le vrai. Le mien était un peu plus grand, les bords beaucoup plus usés, mais c'est ressemblant. Probablement ce qu'il a pu trouver de plus ressemblant pour imiter l'original. J'avais quand même envie de le toucher. Ça paraissait sacrilège d'une certaine manière, comme d'accepter un cadeau du diable. Je fermais mes poings sur les côtés, enfonçais les ongles dans mes paumes. D'un seul coup, je me sentis nauséeuse, étourdie. Comment cet homme pouvait-il me connaître aussi bien alors que je ne savais toujours strictement rien de lui? Oh mon Dieu! Comment combattre un mal qui semblait à ce point tout puissant?
Le rapport de police de l'époque indique qu'ils ont trouvé une cache de Polaroid dans le grenier de la voisine, disait Bobby. Combien vous pariez que certains de ces clichés montrent Annabelle avec son doudou préféré?
Quel salaud,
murmurai-je.
Doté d'une excellente mémoire, ajouta amèrement Didi. Le scientifique avait sorti un sac en papier. Tout en haut, au gros feutre noir, il écrivit un numéro et une brève description. Un instant plus tard, le faux doudou devint une pièce à conviction. Ensuite, ce fut le tour de la boîte et du papier de soie, puis des bandes dessinées du dimanche. Le plan de travail de ma cuisine redevint une surface vide. Le technicien de scène de crime sortit avec ses tout derniers trésors. On pouvait presque faire comme si rien ne s'était passé.
Presque.
J'allais dans le salon. Je regardais par la fenêtre et comptais une douzaine de berlines, de véhicules de patrouille, de voitures d'enquêteurs, etc. garées le long du trottoir. De cette hauteur, je voyais le toit de la Kronvik de Bobby. Les vitres arrière étaient entr'ouvertes. Je devinais le bout humide et noir de la truffe de Bella qui dépassait. J'aurais aimé l'avoir avec moi maintenant. J'aurais volontiers serré quelqu'un dans mes bras.
« Et vous nous jurez que vous n'avez vu personne devant l'immeuble ?» demanda Didi en arrivant derrière moi.
« Peut-être plus tôt dans la soirée. »
Je secouai la tête.
« Et au travail ? Quelqu'un qui aurait fait la queue au Starbucks ou qui se serait pointé plus tard, au moment où vous quittiez Final Hall ?»
Je suis prudente.
J'avais donné des cartes de visite à M. Petracelli et à Charlie Marvin, mais cela ne leur fournissait qu'une boîte postale, pas une adresse physique. Les cartes indiquaient aussi mon numéro de téléphone professionnel, mais un annuaire inversé renverrait simplement à la boîte postale. Détail auquel j'aurais dû penser plusieurs jours auparavant quand j'avais donné mon numéro personnel à Bobby et ainsi apparemment invité plus de la moitié de la police de Boston chez moi.
« Combien de personnes vous connaissent sous le nom d'Annabelle ?»
Bobby se posta à côté de Didi. Question logique. Je pris quand même ma voix acerbe.
Vous, le commandant Warren, la brigade d'enquêteurs.
Très drôle.
Monsieur et Madame Petracelli, Catherine Gagnon. Oh, et Charlie Marvin.
Quoi ?
Didi n'avait pas l'air contente.
D'ailleurs, elle n'avait jamais l'air contente. Je rapportais ma conversation de la veille au soir avec Charlie Marvin. La version courte. À la fin de mon laïus, Bobby soupira.
« Mais pourquoi avoir donné votre vrai nom à Charlie ?»«
Ça fait 25 ans, raillais-je. Qu'ai-je à craindre ?»«
Annabelle, vous en connaissez plus sur l'autodéfense que n'importe qui dans cette pièce. Quel est l'intérêt d'avoir appris ça si c'est pour jouer les imbéciles ?»
J'en avais ras-le-bol. « Hé, vous n'avez pas un tueur d'enfants à attraper ?»«
Hé, qu'est-ce que vous croyez qu'on fout là ?»« Annabelle, il y a une semaine, vous avez commencé à vous servir de votre vrai nom pour la première fois en 25 ans. Et maintenant, vous avez un cadeau devant votre porte. Il faut vraiment vous mettre les points sur les i. »«
Non, pas la peine, gros malin. C'est moi qui me suis planqué dans une baignoire. Je sais à quel point je suis terrifiée !»
Je le frappais. Pas fort. Même pas vraiment parce que je lui en voulais, mais parce que j'étais fatiguée, terrifiée, frustrée, et que je n'avais pas de vraie cible à frapper. Il reçut le coup sans broncher, se contenta de me regarder avec ses yeux gris impassibles. Je m'aperçus un peu plus tard que les autres officiers nous observaient, et que le regard de Didi faisait des allers-retours entre Bobby et moi. Elle mettait ses propres points sur ses propres i.
Je m'écartais d'un bond manquant cruellement d'air. Je regrettais d'avoir accueilli Bobby à bras ouverts. Je voulais que les policiers s'en aillent, que les techniciens de scène de crime s'en aillent. Je voulais être seule pour pouvoir sortir 5 valises et commencer à faire mes bagages. La sonnette retentit. Je sursautai, me mordis la langue. Didi et Bobby étaient déjà dehors, ils descendaient les escaliers 4 à 4. Au dernier moment, j'eus honte d'avoir peur. Bon sang, je n'allais pas vivre comme ça. Je me dirigeai vers la porte. Un des enquêteurs, Sinkus, je crois, essaya de me retenir par le bras. Je l'écartai d'une tape. Il était plus doux et plus lent que Bobby, aucune chance. Je franchis le palier et dévalai les escaliers comme une folle. Mes voisins se carapataient déjà dans la relative sécurité de leur appartement, les portes claquaient, les serrures se fermaient. En haut de la dernière volée de marche, j'attrapai la rampe en bois et effectuai un joli saut avec élan. Je touchai le sol brutalement, franchis la porte en trombe et m'arrêtai tout net. Devant moi, Ben, mon livreur du PS vieillissant dans un garde-à-vous rigide, les yeux exorbités. Bobby et Didi étaient déjà sur lui. « Tania ?» glapit Ben. Et immédiatement j'éclatai de rire. Le rire à moitié hystérique d'une femme réduite à terrifier le livreur qui lui dépose sa dernière commande de tissu. « Ce n'est rien !» dis-je en essayant de paraître calme, même si j'entendais ma voix trembler. « Si vous voulez bien me donner cette boîte !» ordonna Bobby. Ben donna la boîte. « Il faut qu'elle signe !» murmura-t-il. « Est-ce que je peux... Est-ce que je dois... Oh, Seigneur !» Il se tut. Une minute de plus sous le regard sévère de Bobby et le pauvre gars allait se pisser dessus.
« Smith & Noble !» confirma sèchement Bobby en lisant l'adresse de l'expéditeur.
« Des rideaux !» dis-je. « Des stores en tissu sur mesure, pour être plus exact. Ça va, sincèrement. Je reçois un colis par jour, n'est-ce pas, Ben ?» Cette fois-ci, je m'avançais et m'interposais entre Bobby et mon livreur. « Ce n'est rien, » répétai-je. « Il y a eu un incident. Dans l'immeuble, la police procède à des vérifications. »«
Bella ?» demanda Ben.
Depuis 4 ans que je le connaissais, je m'étais rendu compte que Ben ne s'intéressait pas vraiment aux gens. C'était une sorte d'antithèse du livreur, il n'aimait pas tant ses clients que les chiens de ses clients. « Elle va bien. » À point nommé, Bella entendit finalement ma voix, et depuis l'arrière de la voiture de Bobby, elle se mit à aboyer. Ben, loin d'être rassuré, suivit le bruit jusqu'à une voiture de police banalisée et ouvrit à nouveau de grands yeux.
« Mais c'est un bon chien !»
explosa-t-il. Je faillis rire, mais encore une fois, ça n'aurait pas été joyeux à entendre. « Il fallait qu'on la sorte de l'appartement, » essayai-je d'expliquer. « Bella va bien, vous pouvez aller la voir, ça lui ferait très plaisir de vous voir. » Ben semblait désemparé. Bobby tenait encore la boîte de tissu, l'air renfrogné. Didi semblait tout bonnement dégoûté de la vie. C'était le moment de prendre une décision. J'attrapai Ben par le poignet de son uniforme marron et le conduisis à la voiture de Bobby. Bella, la tête à moitié passée par la fenêtre entrouverte, aboyait joyeusement. Cela parut faire l'affaire. Ben chercha des biscuits dans ses poches et nous reprîmes tous la vie telle que nous la connaissions. Bella lui soutira 4 biscuits en forme d'os. Le temps de retourner au pied de mon immeuble, la scène avait perdu de son intensité façon Miami Vice, et nous repartîmes sur de nouvelles bases. Bobby avait quelques questions pour Ben. Quel était son itinéraire? Passait-il souvent dans le quartier? À quels horaires? Avait-il jamais vu quelqu'un rôder autour de l'immeuble? Ben, apprîmes-nous, travaillait depuis 20 ans pour UPS, connaissait les rues de Boston comme sa poche. Il aimait notamment couper par ma rue 30 fois par jour pour éviter les bouchons sur Atlantique. Il n'avait remarqué personne, mais il n'avait pas non plus vraiment fait attention. Pourquoi aurait-il dû? La vie d'un livreur du PS n'est pas facile, découvris-je. Beaucoup de colis, des plannings de livraison compliqués, des itinéraires complexes programmés pour une efficacité maximale, mais bouleversés par les arrivées en dernière minute de colis prioritaires. Du stress, sans parler de Noël. Mais apparemment, le poste offrait un super système de retraite. L'idée que quelqu'un rôde en bas de mon immeuble, nous suive peut-être, Bella et moi, l'inquiéta. Il promit à Bobby d'ouvrir l'œil. Il pouvait sans doute même s'arranger pour passer un peu plus souvent dans la rue tous les jours. Ouais, il pouvait faire ça. Ben n'était pas de prime jeunesse. Je lui donnais la 50aine et il avait les énormes verres en cul de bouteille et la moustache grisonnante qui allait avec. Mais il continuait de bouger grâce à son boulot. Il avait une silhouette sportive et élancée qui commençait juste à s'empâter au niveau du ventre. Bobby dans 20 ans. Sous le rebord de sa casquette UPS marron, le visage d'un ancien boxeur, un nez de travers qui avait pris un coup de trop, une fine cicatrice qui courait sur le côté gauche de son menton après une reconstruction de la mâchoire, ce qui lui tordait légèrement le bas du visage vers la gauche. Ben redressa les épaules, bomba le torse. Très solennellement, il serra la main de Bobby. J'avais donc toute la police de Boston, plus un livreur du PS qui montait la garde. De quoi dormir comme un bébé la nuit. Ben s'en alla, Bobby emporta mon colis dans l'immeuble. Je suivis et décidai que j'étais franchement déprimée.